Beaucoup de parents sont passés par l'étape où ils se retrouvent à faire des grimaces et autres gousis-gousis pour faire réagir leur bébé, tout en se demandant bien entendu ce que la progéniture a bien pu comprendre. Eh bien, sans doute plus qu'on ne le croit généralement, c'est ce que dévoile l'étude de chercheurs genevois parue dans la revue PLOS ONE hier, Anne Bécher.
Oui, alors c'est vrai qu'a priori on se dit qu'un bébé c'est tellement dépendant de ses parents qu'il a tout intérêt à apprendre très vite comment interagir avec ceux qui s'occupent de lui. Alors oui, visiblement, dès les 6 premiers mois, déjà, nos petits bouts de chou développent leur capacité à faire la différence entre un papa ou une maman qui gazouille de joie ou grommelle de colère. Ils font la distinction non seulement au ton de la voix, mais aussi grâce à l'expression du visage de l'adulte. Et ce sont des chercheurs du laboratoire du développement sensorimoteur affectif et social de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université de Genève qui sont à l'origine de cette étude.
Et pour nous en parler, nous avons le plaisir d'accueillir en duplex de nos studios de Genève, Amalia Palama, bonjour.
Bonjour.
Chercheuse au laboratoire du développement sensorimoteur affectif et social, vous allez nous aider à comprendre cette étude. Tout d'abord, pour étudier tout cela, vous avez travaillé avec combien de bébés ?
Alors, pour cette étude, on a rencontré en tout 55 bébés, mais malheureusement, on n'a pu en analyser que 24 à cause de problèmes de méthodologie, etc. Parce que c'est assez compliqué de les études avec les bébés.
Il y en a qui n'ont pas envie de jouer avec vous, en fait.
Alors, il y a ça. Et puis aussi, avec la technologie qu'on utilise, on perd beaucoup de données parce que ça ne marche pas forcément avec les tout-petits.
C'est dans le Baby Lab, c'est ça hein, c'est
ce
grand laboratoire pour les bébés. Alors, vous dites que durant les premiers mois, les nouveau-nés et les bébés ont une préférence pour les visages souriants. Et pour arriver à ces conclusions, vous avez observé les yeux des bébés, c'est juste ?
Exactement. Donc nous, on s'intéresse aux préférences visuelles des bébés. Donc on décode où ils regardent et où ils préfèrent regarder en fonction des voix qu'on leur présente.
Il y a un outil pour ça, hein, c'est ça. Il y a parce que vous avez un appareil assez sophistiqué, on appelle ça le eye tracking, c'est juste ?
Exactement,
c'est
ça.
Comment ça marche, ça ?
Donc en fait, c'est un appareil qui se situe en bas d'un écran. Et puis grâce à ça, on peut voir le reflet de la pupille grâce à une technologie infrarouge et on peut voir exactement où l'enfant regarde sur l'écran.
D'accord. Et d'un autre côté, eh bien, vous avez observé leur réaction à la voix. Comment est-ce que vous avez procédé ?
Alors oui, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu voir si leur préférence visuelle, elle changeait en fonction de la voix émotionnelle qu'ils entendaient avant. Et donc pour voir s'ils sont capables de faire le lien entre la voix qu'ils entendent et les visages auxquels ils sont exposés.
Ça veut dire par exemple, prenons un exemple, donc on entend une voix un peu fâchée comme ça et on voit un visage fâché et ou l'inverse, une voix fâchée, un visage souriant, c'est ça que vous faites ?
Alors presque en fait, donc on présente d'abord une voix par exemple fâchée justement comme vous disiez et après on présente deux visages. Un qui correspond à la voix qu'ils ont entendue, donc un visage fâché et puis un qui est différent de la voix entendue, donc par exemple un visage joyeux. Et on s'intéresse à voir si en fonction de la voix qu'ils ont entendue, ils vont préférer et regarder plus l'un des deux visages. Donc soit ils vont préférer regarder le nouveau visage, celui auquel ils ne s'attendent pas, après avoir entendu une voix de fâché par exemple, soit ils préféreront regarder le visage qui correspond à la voix qu'ils ont entendue.
Mais alors, là, il faut faire des hypothèses, parce qu'évidemment, il ne peut pas vous expliquer ce qu'il pense, le bébé. Donc, qu'est-ce que vous faites comme hypothèse ? On imagine ça, il entend une voix fâchée, il a en face de lui deux visages, un qui sourit, un qui est fâché. Qu'est-ce que vous faites comme hypothèse à ce moment-là ?
Alors, la première hypothèse, c'est que les bébés préfèrent regarder... ce qu'ils vont plus regarder, c'est ce qu'ils préfèrent. Donc, en analysant le temps de regard, on peut savoir qu'ils ont préféré regarder une chose par rapport à une autre. Et puis, une deuxième hypothèse, c'est que les bébés sont en principe plus attirés par la nouveauté, donc ce qui n'est pas familier, ce qui les surprend. Donc, nous, ce qu'on postule dans cet article, c'est qu'ils vont plutôt regarder ce qui va les surprendre, justement. Donc, après avoir entendu une voix de joie, par exemple, ils seront surpris de voir un visage de colère et donc vont plus le regarder parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi il est là et...
Bon, remarquez, il n'y a pas que les enfants que ça surprendrait hein, d'entendre une voix joyeuse et puis avoir un visage de colère après. Mais enfin, on parle de joie, de visage pas content. Mais vous avez également testé d'autres expressions d'adultes auprès des bébés, à part ces deux-là ?
Alors oui, mais pas dans cette étude. Donc dans d'autres études, on a testé la peur ou le dégoût aussi. Mais les résultats sont en cours, donc je ne peux pas vous en dire plus
pour le moment. On ne peut pas en parler pour le moment. Mais quand vous avez testé la peur, ça veut dire que vous leur faites entendre des voix qui font peur au bébé.
C'est dans votre laboratoire.
Attendez, on va intervenir.
Alors, ce n'est pas du tout le but. En vrai, il y en a qui peuvent réagir plus fortement que d'autres. En principe, ça se passe très bien. Et puis, ils ne sont pas vraiment effrayés. Mais c'est... la voix d'un adulte qui exprime de la peur, par exemple, ou de la joie. Dans cette étude-là, c'est la répétition de la voyelle A. Donc, je peux le faire, mais...
Allez-y, faites-le.
Donc, ce sera, par exemple, ah, pour la colère, et puis ça se répète comme ça.
Donc, d'accord.
C'est simplement une voyelle qui
voilà.
Avec un certain ton qui doit illustrer
exactement.
Une émotion.
Ah, pour pas qu'il y ait l'influence de la voix, la langue maternelle parlée à la maison, que ce soit vraiment que l'émotion...
C'est incroyable, il faut penser absolument à tout. Et puis, ce n'est pas les visages des parents non plus. Hein. Ce sont des visages adultes qui ne sont pas les visages des parents, de manière à ce qu'on ait vraiment aucun biais possible.
En fait, les visages de parents, ça serait le mieux, parce que c'est auxquels ils sont le plus exposés. Mais c'est très compliqué logistiquement. Et puis, on ne peut pas être sûr que le parent comprend bien l'émotion qu'on veut représenter. Donc, ça serait très bien à faire. C'est fait certaines fois, mais c'est plus compliqué.
Donc là, on comprend que les enfants, les bébés jusqu'à 6 mois peuvent différencier les visages. Est-ce qu'on peut supposer que la différenciation par les bébés des expressions émotionnelles continue de se diversifier encore au-delà de 6 mois, puisque là, on parle d'enfants jusqu'à 6 mois?
Oui, exactement. Donc là, c'est les prémices, si on veut dire. Et puis, avec le développement, ils développent des capacités de plus en plus complètes et puis une reconnaissance beaucoup plus affinée.
Alors, qu'on comprenne bien donc, votre étude. On a ces enfants qui regardent des visages, on a d'autres études qui ont fait ça. Donc, qu'est-ce que votre étude, en fait, arrive à nous expliquer sur le fonctionnement des tout-petits et leur manière de décoder les émotions? Quoi de neuf sous le soleil?
Alors, la grande nouveauté, c'est qu'en fait, on s'intéresse à savoir s'ils font vraiment le lien entre la voix entendue et les visages présentés. Et on postule que s'ils arrivent à faire ce lien, c'est qu'ils comprennent la signification de l'émotion. Donc, s'ils arrivent à comprendre que l'émotion contenue dans la voix est la même que le visage qui exprime un visage fâché, alors c'est qu'ils comprennent bien que les deux sont reliés et le sens de l'émotion.
Et donc, résultat, à 6 mois, ils comprennent très bien. Et avant, ils comprennent déjà, vous avez testé différents
alors,
âges
oui,
avant.
J'ai testé différents âges à partir de 1 mois. Par contre, la technologie d'eye tracking est très difficile à mettre en place. Donc, on utilise plutôt le codage vidéo qui est la méthode plus...
D'avant, on observe les yeux, on regarde simplement les yeux bouger. On essaie de deviner s'ils regardent à droite ou à gauche, c'est ça?
Oui. Mais là aussi, les résultats sont en cours, donc je ne vais pas vous...
Vous pouvez juste nous dire si on a tendance à penser que déjà un mois, parce que c'est incroyable, ça veut dire que très très jeune...
Oui, un mois, c'est compliqué, honnêtement, au niveau visuel à faire, parce qu'ils s'endorment assez facilement pendant.
Ah, ils participent.
Mais à partir de 2 mois, on peut espérer des résultats intéressants.
Ah, c'est intéressant. Des recommandations pour les parents suite à ces expériences? C'est évidemment pas le but de votre recherche, mais on pourrait en déduire quoi? Qu'il faut être très expressif avec ses enfants
Alors oui, ça c'est une des choses. Et puis bien penser à interagir et jouer avec les enfants, et justement en restant expressif, etc. Et puis je dirais pour les plus grands, d'encourager leurs enfants à exprimer et puis verbaliser leurs émotions, les émotions qu'ils ressentent, pour mieux les intégrer et les réguler.
Est-ce que cet outil, c'est presque un outil de détection de la réactivité des bébés, est-ce que ça pourrait être utile pour la détection précoce de l'autisme?
Alors, oui, c'est utilisé dans certaines études, et parce qu'on sait par exemple qu'avec l'autisme, à partir de 6 mois par exemple, ils regardent moins la zone des yeux, et l'eye tracker permet de regarder exactement où l'enfant regarde et pouvoir déterminer... si justement ces regards vont être différents qu'un enfant normal.
Tout ceci est passionnant. Alors vous reviendrez nous parler de ces recherches sur les tout tout petits quand vous aurez publié les résultats. On attend ça avec impatience. Amalia Palama, merci d'avoir répondu à l'invitation d'Anne Becher ce matin. Vous êtes chercheuse au laboratoire du développement sensorimoteur et affectif et social de l'Université de Genève.
CQFD sur la première.